Bon, non. On est dans le Tania, chapitre 37, tiens, Dan Bechavod. On a commencé un thème très important, bon, c'était avant les vacances, donc on a eu entre-temps Hanouka, on a eu entre-temps, voilà, le 19 Kislev, donc il faut qu'on rafraîchisse un petit peu la mémoire. Le thème sur lequel on s'était arrêté, un thème très très important, c'est le thème des 600 000 âmes. Ça c'est le thème sur lequel on s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué la chose suivante. On a expliqué que, depuis la création du monde, Adam Harishon, c'était une grande âme qui englobait en elle 600 000 âmes.
Ouais. 612, hein. Ouais.
600 000. Bon, on a dit, pour être précis, on a dit 603 550.
Ah,
bon. On va arrondir à 600 000. Donc c'était une grande âme qui incluait 600 000 âmes. Mais à la base, c'était une âme. Après, ça s'est dispatché. Mais on a dit que ce chiffre n'a jamais été dépassé. C'est-à-dire que le chiffre est toujours resté le même.
Encore aujourd'hui.
Ça veut dire qu'on soit 12 millions de juifs, 15 millions, 50 millions, 100 millions, le nombre de 600 000 âmes, j'ai arrondi à 600 000, sera toujours exactement le même. Comment c'est possible? C'est là qu'on a commencé à expliquer. C'est là qu'on a commencé à expliquer. En vérité, chaque neshama est scindé en 600 000 étincelles.
À chaque neshama maintenant.
C'est-à-dire, là vous devez compter 600 000 fois 600 000. Vous rappelez, Yves nous a fait le calcul avec... Bon, on laisse le temps de se réchauffer. Il nous a fait les calculs, là.
636, si tu rajoutes...
Après, on avait expliqué... On avait expliqué que chacune de ces... Chacune de ces parcelles...
160 000...
Alors, on va juste continuer.
Il y a encore 600 000 fois.
J'ai pas fini.
C'est jamais fini, hein.
J'ai pas fini. Et on avait expliqué que... On avait expliqué... qu'il y a...
600 000 fois 600
000. J'ai pas fini. On a expliqué que dans chaque parcelle de ces neshamot, il y a 5 niveaux. Donc là, ce que vous avez, vous multipliez fois 5. On a expliqué aussi que chacune de ces cinq parties de la neshama, de toutes ces parcelles, se trouve dans le Olam, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc vous multipliez encore fois 4. Non mais là, l'iPhone il suit pas là, il est déjà...
Il a l'iPhone
qui suit.
7200 milliards.
Hein?
Non, plus que ça.
T'as multiplié chez quoi?
Oui.
Plus que ça. Mais non, il est largement plus que...
C'est l'iPhone pour compter les chiffres d'Hubert là ou quoi?
Non, c'est pour compter la recette.
C'est l'ordinateur de la NASA.
C'est pour ça qu'on est aussi nombreux que les...
Bien sûr. Donc là, c'est là qu'on a expliqué.
Hubert, c'est 20 ou ça pour toi maintenant?
On a expliqué que chacun de nous a un travail. C'est quoi ce travail? Ce travail, c'est que chacun de nous a une étincelle particulière, une neshama spécifique, qui n'appartient qu'à lui. Et notre travail, c'est de raffiner le monde. Et donc c'est là qu'on a fait le dernier cours, l'avant-dernier cours, d'expliquer, vous rappelez l'exemple de la bouteille, que chaque parcelle de cette bouteille a une étincelle, puisque ça provient du grain, etc. Et que chacun correspond à quelqu'un. Maintenant, la grande question qu'on se pose tous, et ça, on n'a pas traité la dernière fois, c'est à quel moment Mashiach arrive? Mashiach arrive au moment où toutes les neshamot, toutes les âmes ont fait leur travail, dans le sens que tout ce qui devait être raffiné dans le monde a été raffiné. Tout ce qui devait être raffiné dans le monde, chaque partie du monde a été raffiné. Maintenant, je vais vous donner un scoop. C'est que déjà le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, en 1950, enfin 49 pour être précis, il a annoncé, et il n'était pas le seul à le faire, il y a beaucoup de grands qui l'ont dit, ils ont dit, le travail de raffinement des étincelles est terminé. 1949. D'accord? 4 ans après la Shoah.
Après la guerre.
Il a dit, et c'était pas le seul à annoncer, il a dit, Nigmera Avodat Abirurim, il a dit, le travail du monde par les étincelles est déjà terminé. Parce que n'oubliez pas, nous on est peut-être des nains, mais on est des nains sur des géants. C'est-à-dire, imaginez nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents jusqu'à Moïse. C'est des géants. Même si on est des imbéciles, mais imaginez comme un nain qui monte sur un géant. Un nain qui monte sur un géant, c'est un géant. C'est exactement notre image. On est comme des nains sur des géants. Alors si le travail est terminé, qu'est-ce qu'on fait là? Alors Rabbi Yosef Yitzhak, en 1949, il avait dit, la seule chose qui nous reste maintenant, c'est nettoyer les boutons.
Quel mouton?
Ah voilà,
de l'uniforme.
Les boutons de l'uniforme. Vous savez quand bon aujourd'hui c'est vrai aujourd'hui les gens c'est à la mode les gens ils s'habillent et cool.
Non mais parce c'est... que les boutons étaient dans une.
Mais bien sûr.
D'accord. Il fallait bien les.
C'était des boutons en or.
Voilà. Il fallait bien les voir.
Il fallait les astiquer. D'accord. Et donc puisque les boutons il faut les astiquer. Donc le rabbi Yosef Yitzhak il a dit le travail est terminé, le monde est prêt. Maintenant la seule chose qui nous manque c'est quoi? Il faut astiquer le bouton, ça veut dire faire les derniers préparatifs, en d'autres termes, pour accueillir Mashiach. Ça, c'était en 1949. Maintenant, en 1987, notre rabbi, il a dit, même ce travail de nettoyer les boutons, il est déjà terminé. Il a donné une image extraordinaire, il a dit, à force de nettoyer un bouton, on l'use. Donc il dit, combien on va l'user le bouton? Donc il a dit clairement, il a dit... Même nettoyer les boutons, c'est déjà fini. Ça, on a déjà fait. Il faut être dans les hauteurs pour comprendre. Nous, on est des imbéciles, nous. D'accord? On est des bicots, excusez-moi du terme.
Non, jamais.
D'accord?
Non, jamais.
Pas toi, pas toi.
Alors, Shalom, c'est dangereux, c'est en train de fermer la porte, s'il vous plaît, là-bas. Donc il a dit, nous, on a terminé le travail.
Rien, il est là devant.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il dit maintenant qu'on a terminé le travail de nettoyer les boutons. Maintenant, la seule chose qui nous reste, c'est de nous préparer à attendre Mashiach. Ça veut dire quoi? Là, le rabbi a dit un chidouche extraordinaire. Il a dit en vérité, le problème, Mashiach, il est prêt à venir. Le monde est prêt à accueillir Mashiach. C'est nous qui ne sommes pas prêts à l'accueillir. Et il a donné un exemple. Il a dit, regardez, est-ce que tout le monde est parti dormir la nuit dernière? Moi, le premier. Est-ce que ça m'a empêché de dormir quand Mashiach n'était pas là?
Non.
Je dis, bon, ben, pas là, ça fait 2000 ans qu'on l'attend, ça va pas déranger. Donc, ça veut dire que je l'attends pas. Quand quelqu'un, il attend quelque chose avec impatience, imaginez comme un enfant qui attend les grandes vacances.
Il dort pas la nuit.
Il dort pas la nuit. Il dort pas. Mais imaginez-vous, je sais pas si vous vous rappelez encore, ça fait un bout de temps, mais la veille de votre mariage. Il dort pas la nuit. Qu'est-ce que tu vas dormir? C'est impossible de dormir. Tu peux pas dormir, t'as bien dormi, toi, hein? Ça veut dire, voilà. Alors seulement quoi? Nous dit le rabbi aujourd'hui notre travail, ça veut dire raffiner les étincelles, c'est terminé. Nettoyer les boutons, c'est aussi terminé. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il nous manque à nous préparer, ma chère. Faut nous préparer. Ça veut dire que c'est comme si vous avez un invité de marque qui doit arriver. À quel moment la star elle arrive? C'est comme vous allez au théâtre, vous allez etc. On vous envoie une star pour chauffer la salle. À quel moment la vraie star elle sort?
Après.
Quand la salle est chaude. Si maintenant la salle est froide, personne n'attend la star. Après la star va sortir, il dit bon bonjour, je m'appelle une star. Sors pas, faut m'attendre. Et c'est là qu'a commencé. Mais les gens ne comprenaient pas. Vous avez certainement dû remarquer que dans les dernières années, à la fin des années 80, le rabbi il a beaucoup parlé de Mashiach. Il y a même des gens qui, à juste titre, ils parlaient de la folie de Mashiach. C'est la folie, les gens, tout le monde, le rabbi parlait Mashiach. Il y a des gens qui étaient choqués. Je peux les comprendre. Dis, mais pourquoi tout d'un coup comme ça on parle ma chère, ah, ça va, bon, ça va. Parce qu'en fait, le rabbi, il dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement sombré dans l'exil, qu'on n'attend plus, ma chère. On l'attend pas. Et c'est pour ça qu'il a lancé des campagnes, et ça passe son plein encore, et on n'est pas encore, si ma chère n'est pas là, c'est que c'est pas fini. Des campagnes pour nous préparer au fait qu'on doit attendre ma chère. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous entendez un ami, un collègue, je sais pas qui, il est tombé malade. Excusez-moi d'être cru, il est mort. D'accord, il est mort. Ouais, il est mort. 40 ans, il est mort. Bon, qu'est-ce que tu dis? Il y a un bordel, Nemet. Mais, dans ta tête, est-ce que tu dis, c'est pas normal, comment c'est possible? Bon, au début, tu dis ça. Après, tu dis, bon, bah, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Quand ma chère, il arrive, il n'y a pas des choses comme ça. Ça n'existe pas. Pourquoi? Ça, c'est l'exil, ça. Ça, vivre en mode galoutique. Certains temps, toutes les nations qui te tapent sur la tête, ils disent on va couper Jérusalem en deux. Au début, ça choque. Après, tu dis bon, bah écoute, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Seulement, c'est ça ce qui prouve. Je réfléchissais pourquoi c'est la semaine dernière. C'est ça, c'est des événements comme ça qui nous prouvent que finalement on est encore en exil et qu'on vit comme avec un esprit d'exil. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'état d'Israël, on peut être dans tout ce que vous voulez, mais on peut vivre avec un état d'esprit d'exil. Et en fait, c'est ce que disait le rabbi de Kotz.
Pardon.
Le rabbi de Kotz qui disait, faire sortir les juifs d'Égypte, faire sortir les juifs d'exil, c'est facile. Mais faire sortir l'exil des juifs, c'est très compliqué. C'est très, très puissant ce qu'il dit. Et en fait, il donnait un exemple. Imaginez quelqu'un, après on va faire dans les mots, mais je voulais beaucoup développer sur ça. Imaginez quelqu'un qui est en prison. Vous savez, quand on est en prison, bon, c'est dur, on ne sait pas ce que c'est, mais quand on est en prison, au début, on se rappelle que la vraie vie n'est pas dans la prison. Que la vraie vie, elle est dehors. La vraie vie, elle n'est pas dans le placard, elle est dehors. Mais après, avec le temps, on s'habitue. Avec ça, nous, dans les prisons ici, il n'y a que des hommes, ou il y a des prisons de femmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ensemble. Mais imaginez, si c'est le cas comme c'était le cas dans les prisons à l'époque, il y avait des prisons dans lesquelles tu avais des familles entières. C'est-à-dire qu'on mettait une famille entière en prison et elle continuait à évoluer en prison. Maintenant, imaginez un gosse, il est dans cette prison, d'accord ? Il est dans cette prison, etc., il grandit. Et, bon, et son père, il lui raconte, et, tu sais, mon fils, il y a un monde dehors.
Ben, il ne peut pas se rendre compte. Hein.
Il raconte celui-là. Il a perdu la tête, papa, ou quoi ? Il raconte.
Son monde à lui, c'est la prison.
Son monde à lui, c'est la prison. Il dit, regarde. Voilà. Il y a le pain qui tombe, il y a la lumière, il y a ci, il y a ça. C'est notre vie. Tu dis, mais non, il y a un monde dehors. Tu dis, mais quel monde dehors ? Il n'y a pas de monde dehors. Voilà, c'est là le monde. Il est où le monde ? Et donc, du coup, il n'a même plus envie de sortir de prison parce qu'il ne se sent pas en prison. Vous comprenez ? Pour avoir envie de sortir de prison, il faut réaliser qu'on est en prison. Pour avoir envie de sortir de la crise, il parle beaucoup de ça maintenant dans les infos. Pour avoir envie de sortir de la crise, il faut réaliser qu'on est dans la crise. Sinon, tu ne peux pas sortir. Ça ne marche pas. Et c'est ça ce que le rabbi n'arrêtait pas de parler. Le rabbi n'arrêtait pas de parler sur ça. Il dit, aujourd'hui, on ne réalise pas qu'on est en exil. Et dans un fameux discours, que le rabbi avait fait, c'était le 28 Nissan en 1991, d'accord ? Le rabbi, il avait fait un discours dramatique dans lequel il avait dit, je vous laisse le dossier. Clairement. Clairement. Il a dit, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Pour emmener Mashiach n'est pas là, donc je vous laisse le dossier. Et il leur dit, voilà, maintenant c'est à vous d'amener Mashiach. C'est dramatique, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu des mots comme ça. Et on voit, c'était enregistré, c'est en pleine semaine. Et on voit les...
même où il parle, où il y a six boutons, c'est le même.
Non, c'est un autre. Et on voit dans le... Enfin, les chassidim, ils commencent à chanter Admatay, jusqu'à quand, parce que le rabbi dit, je chante Admatay. Et le rabbi, juste après, il a dit, mais on n'a rien compris. Il a dit... Ne dites pas Admatay jusqu'à quand, parce que je vous ai dit de dire Admatay. Dites Admatay parce que vous pensez vraiment Admatay jusqu'à quand. Vous savez ce qu'a dit le rabbi juste après, dans les semaines qui ont suivi? Il a dit, s'il y avait 10 juifs dans le monde qui étaient convaincus, persuadés, qui attendaient Mashiach, vraiment, Mashiach serait déjà là. Après, dans un autre Farbringen, un des derniers Farbringen qu'il a fait, il a dit, s'il y avait même 3 juifs dans le monde, 3 juifs, je dis bien 3, 3 juifs dans le monde, qui attendait vraiment Mashiach serait déjà là. Vous comprenez? C'est là quand on, et c'est exactement ce qu'on est en train d'apprendre.
Dans le monde.
Non. Pas attendre comme il faudrait attendre.
Ouais. Mais alors
comment? Attends, tout le monde peut attendre. Ça veut dire, si j'attends Mashiach comme si je veux gagner au loto. Tu vas jouer au loto, si t'arrives à jouer au loto?
Oui.
Pourquoi tu joues? Parce que t'espères gagner.
Oui.
Maintenant, est-ce que tu comptes gagner?
Oui, évidemment.
Est-ce que tu vas aller dormir en te disant, je vais pas dormir, je suis sûr que j'ai gagné demain? Non, voilà.
La question est différente.
Ça veut dire dans ta tête, j'ai joué un coup, peut-être ça marche.
Non, mais si tu gagnes.
Si ça marche, j'ai une chance sur 1 million de gagner. Si ça marche, tant mieux, ça marche pas tant pis.
Et si tu gagnes, qu'est-ce que t'en fais de ton gain?
Bon, peu importe, voilà. Mais c'est pas la question, je crois pas que je gagne, comment tu veux que je gagne?
Tu peux aussi dire que c'est pas mal.
Je crois pas que je gagne. Vous savez, Joseph, je vais vous dire quelque chose.
C'est pas évident de gagner.
Tous les présidents des États-Unis, oui. Y compris M. Trump,
oui.
Lorsqu'il était jeune homme, c'est sérieux, il disait à tout le monde autour d'eux, un jour je serai président des États-Unis.
Oui, ben oui.
C'est jamais arrivé quelqu'un qui est devenu président des États-Unis tout seul comme ça.
Ah non, oui.
Ça s'est fait qu'au début il était sénateur, après comme ça. Bon, il a dit, tu veux être président, vas-y, viens président. Ça n'existe pas.
Ça vient très tôt, ça.
Parce que dans sa tête, il voulait être président.
Ah oui.
Mais tous.
Ce mec-là, il est...
Moi, certainement, à mon avis, c'est la même chose pour les Français. Dans l'étude que j'ai lue, c'était pour les présidents américains. Tous les présidents américains, ils ont prouvé que lorsqu'ils étaient jeunes, je dis 18, 20 ans, ils disaient à tout le monde autour d'eux, un jour, je serai président des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils avaient l'ambition, ils voulaient le devenir. Ils voulaient.
Ils avaient l'ambition.
Ils voulaient, ils l'ont eu. Donc là, la question qu'on doit se poser maintenant, nous, en ce qui nous concerne.
À ce moment-là, ils n'étaient pas seuls, il y avait peut-être plusieurs dizaines qui ont.
Moi,
président. Oui. Oui, exactement, regarde l'autre. Moi, président de la République. À mon avis, c'est là qu'il a gagné.
C'est ça qu'il a fait.
C'est ça qu'il a fait. Vous êtes d'accord avec moi?
Et l'autre était en face,
il
ne répondait pas.
Et c'est ça. Non, vous savez pourquoi il ne répondait pas? Parce qu'il était bluffé. Ils ne s'attendaient pas à voir.
Ils ne s'attendaient pas, c'est un anaphore. Ah ouais. Moi, président, moi, président.
Bah, c'est comme Chirac et Mitterrand. Hein, ce soir, vous n'êtes pas Premier ministre, je ne suis pas. Et l'autre, lui répond tout à fait, monsieur le Premier ministre. Hein, mais c'est la même chose. Tout est, et à ce moment-là, c'est déjà gagné. C'est fini.
Excusez-moi, 1988. Ouais. Par rapport à ce que vous dites, par rapport à l'état d'esprit, ça me fait penser un peu à l'expérience de Pavlov avec le chien. Vous connaissez, vous faites principe.
Oui,
conditionné. C'est-à-dire qu'ils prenaient un chien, ils allumaient une lumière, et après ils mettaient une gamelle. C'est une cloche qui sonne. Et après, ils mettaient une gamelle. Et ils ont répété l'expérience pendant plusieurs fois. Au bout d'un moment, ils ont fait sonner la cloche, le chien commence à saliver, il a pris son assiette, ils n'ont pas mis son assiette. Pour revenir à ce que vous disiez, par rapport au peuple juif, depuis le temps qu'on annonce, depuis des milliers d'années qu'on attend ce fameux libérateur, entre guillemets, qui ne vient pas.
Personne n'a annoncé. On ne peut pas annoncer.
On attend, mais
toute l'erreur est dans le mot annoncé. C'est le problème. Personne n'a annoncé. Je vais vous dire quelque chose. Mashiach, ceux qui en parlent, ils savent pas, et ceux qui savent, ils parlent pas. Vous me suivez? Hein? C'est comme le Mossad. Ceux qui en savent, ils parlent pas, et ceux qui parlent, ils savent pas. Donc on les parle.
Ce que je voulais vous dire, c'est que depuis l'aube des temps, très peu vécu sur sa terre, on peut dire, très peu, ou alors sous emprise d'une autre nation. Il a pris tellement de...
Oui, mais pourtant, on est le seul peuple qui tient depuis cette époque-là.
J'entends bien.
Ah, donc c'est illogique, ça.
J'entends bien.
Ah bah oui.
Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est que, au bout d'un moment, ce que je voulais vous dire, c'est que le mental du juif,
ah oui, oui.
Il est...
Ah non, non, je...
Il est pas formaté, mais il est presque...
Il est sceptique. Il est sceptique, il dit bon...
C'est pas ça, c'est qu'en Israël, on sait que tous les deux ans, il y a...
Une guerre.
Une guerre, on sait que...
On le sait.
Machin, il va y avoir un petit... Et puis on sait que... Voilà. Donc, je pense que nos esprits sont formatés. C'est un peu cette expérience-là.
Alors, attention.
Comment on peut
Le rabbi n'a jamais eu. Justement, je voulais m'arrêter dessus parce que c'est un rapport avec la date de ce soir, qui est une date très importante. Je vais expliquer tout de suite. Le rabbi, il n'a jamais employé des discours négatifs dans le sens oui, c'est de votre faute, vous voulez pas que moi j'y arrive. C'est pas du tout. Et au contraire, il justifie le comportement du peuple juif. Il y a même un Fabringen dans lequel, qui a été aussi filmé, c'était en semaine, dans lequel Rabbi, il pleurait, il parlait à Dieu comme ça. Il disait, Dieu, où es-tu? Il dit, mais Dieu, c'est normal, tu laisses tes enfants comme ça pendant 2000 ans, comment tu veux qu'ils t'attendent?
Oui.
Et c'est après ce que vous dites, vous avez raison. Ah oui, c'est un cadeau empoisonné.
Voilà.
Un peu le cadeau empoisonné.
Oui.
Atabé Rartano.
Mikol Amim. Veratzita otanu, vikidashta otanu bimitzvotecha. Afen atziklu, fenu. Oui, c'est où tout ça?
C'est mythique, ça. Hein. Alors, non, mais sérieusement. En fait, la date à laquelle tout. Vous avez raison, seulement il y a des étapes. Et maintenant, on s'approche. Je disais, raffiner le monde, c'est terminé. Nettoyer les boutons, c'est terminé. À quelle date le rabbi a dit que nettoyer les boutons, c'est terminé? C'était à partir du 5 Tevet, 5747, 1987. 5 Tevet, 1987, ça fait exactement 30 ans de ce soir. Ce soir, on est le 5 Tevet. Didan Notzar, une très très grande fête. Alors, officiellement, c'est une histoire avec des livres, des gens qui avaient volé des livres, etc. Mais le rabbi expliquait que derrière ce conflit, il y avait une grande guerre spirituelle. Et dès qu'il y a eu cette victoire...
Un membre de la famille,
c'est ça? Un membre de... Non, c'est pas que de la famille, c'était une guerre spirituelle, en vérité. Et dès qu'ils ont gagné, le rabbi dit à ce moment-là, dès cet instant, le travail... de nettoyer les boutons est terminé. C'était le 5 Tevet, exactement, ça fait 30 ans d'aujourd'hui. 1987, voilà, ce soir, 2017. Mais 30 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Attendez, et c'est là, on voit clairement, il suffit en vérité d'analyser 30 ans jour pour jour. C'est pour ça, ce soir, juste après le cours, on va aller, pour ceux qui veulent, hein, je vais aller au Fabringen à la rue Petit, très grand Fabringen, il y a le Rav Raskin de Montréal qui est venu, pour célébrer les 30 ans. Et en fait, les 30 ans de l'Etevet. Et donc, en fait, ce qu'on voit clairement dans le monde, c'est qu'on voit clairement que l'histoire s'est accélérée ces 30 dernières années. Ça veut dire que ce que le monde a fait ces 30, peut-être même 40 dernières années, on a fait en 40 ans ce qu'on n'a pas fait en 1000 ans d'histoire. le monde a fait des changements extraordinaires qu'on n'a pas fait en 1000 ans d'histoire. Regardez par exemple l'effondrement, c'est le Rav Goldberg, il en parlait la dernière fois. L'effondrement de l'URSS, ça a commencé quand ça?
89.
D'accord? 89. Mais quand on voit l'histoire, ça a commencé quand? Ça a commencé en 87.
Oui, ça a commencé en
87.
Lorsque Gorbatchev,
oui, j'ai compris.
Gorbatchev, il a prononcé le mot la Perestroïka. C'est là que le mur est tombé.
Alors, mais ça c'est le moment où le mur est tombé. Le moment où le mur est tombé.
La transparence.
Le moment où le mur est tombé, c'était la fin. C'est déjà c'est le moment où c'est explosé.
Non, mais il est tombé des années plus tard.
D'accord.
Mais il a commencé là.
Et regardez les changements qu'il y a eu dans le monde à partir de ce moment-là. On sent clairement que l'histoire du monde s'accélère. On sent clairement que l'histoire du monde s'accélère. Je lisais un livre récemment. Je vous racontais quelque chose. Je lisais un livre récemment. Un livre qui a été écrit par des membres de la DGSE. Vous connaissez la DGSE? Et les membres de la DGSE, c'est des membres qui racontaient la chose suivante. Je lisais récemment, on m'a envoyé un extrait d'un livre, un article. Et en fait, dans cet article, c'est les membres de la... Vous connaissez la DGSE? Ils expliquaient la chose suivante. Ils expliquaient que... Quel était le travail de la DGSE dans les années 80? Hein? C'était quoi leur travail? Leur travail dans les années 60, 70, 80? Espionner derrière le rideau de fer. C'est ça leur travail. Ils savaient faire que ça. Tout le travail, c'est ça. Daesh, on connaissait pas Daesh. Il y avait pas de Daesh, il y avait pas tout ce que tu... Toute la guerre, c'était quoi? C'était espionner derrière le rideau de fer. Espionner à Berlin, derrière, espionner où tu veux.
Et les Soviétiques,
c'était la même chose. Exactement. Et c'était ça la guerre du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait bouger les gens? Qu'est-ce qui a fait qu'on a envoyé une fusée? Qu'est-ce qui fait qu'on a envoyé des hommes sur la Lune? Qu'est-ce qui fait? C'est toujours une guerre entre eux. D'un côté, les communistes. Et d'un autre côté, le monde libre. Et c'est toujours. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le communisme s'effondre, c'est les gens de la DGSE, c'est pas moi qui vous dis ça, c'est des gens de très grosses pointures, qui disent, on savait plus quoi faire. On savait plus à quoi servir. On se dit, mais à quoi on sert? Quel est notre travail maintenant?
Enseignement.
Parce que du coup, maintenant, les grands du KGB, ils sont venus avoir la DGSE, c'est terminé. La guerre est terminée. Alors après, il y a eu d'autres guerres qui sont venues. Et ça, le Zohar l'avait prédit. Le Zohar avait prédit qu'à la fin des temps, la guerre ne sera pas avec Esav, elle sera avec Ishmael. Parce que, les États-Unis et la Russie, les deux, c'est Esav. Les deux sont du monde d'Esav. D'accord? Donc c'est Esav contre Esav, mais finalement, et nous, on est entre les deux. Le dindon de la farce, comme d'habitude. Mais là, on remarque que dans les années, 87, 88, 89, quand je vous dis, il y a eu un changement. C'est là qu'il y a eu un tournant dans l'histoire. Un tournant qui s'était déjà enclenché depuis le début des années 80, mais qui a réellement pris seulement à la fin des années 80. Et c'est là qu'on a eu la guerre du Golfe, c'est là qu'on a eu, etc. C'est là que le monde a changé. Et là, maintenant, on est en plein dedans. On est dans la guerre du chemin. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est dans la guerre du chemin maintenant? Aujourd'hui, 100%. Aujourd'hui, j'entendais ce matin la radio, j'entendais, ça m'a choqué. Ils ont dit, France Info, ils ont dit des soldats de Daesh ont Daesh a revendiqué que c'est un de leurs soldats.
Oui.
France Info. Oui. Un de leurs soldats qui a perpétré l'attentat en Turquie, à Istanbul. Regardez-moi, soldat, j'ai dit un soldat.
Ouais, soldat.
Avant, quand t'entendais parler d'un terroriste, d'un marginal, d'un déséquilibré.
Ouais. Non,
soldat.
Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des terroristes.
Mais vous
ils
imaginez
ont peur.
Soldat.
Ils en ont peur.
Ouais, c'est vrai. Mais attends, d'où se sort ça?
Et la peur s'est déguisée en respect à tel point.
Mais vous imaginez
la peur s'est déguisée.
Ce matin, je vous dis, ce matin, France Info. Ce matin, 10h30, j'entends soldat. Je suis resté bête.
C'est
sur BFM. Et tu imagines? Ça veut dire que maintenant Daesh est devenu une armée. C'est une armée. Avant, on avait le KGB, maintenant on a Daesh. C'est nouveau, ça a changé. Et ça nous montre que le monde change. Le monde change très très vite. Et ça, voilà. Maintenant, ce que nous dit le Rabbi, c'est que notre travail aujourd'hui, c'est pas de commencer à chercher les problèmes, de commencer à chercher à cause de quoi ça arrive, etc. Notre problème aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de nous préparer à Mashiach. On n'est pas prêt à Mashiach. On n'est pas prêt. Et même une fois, un rabbi qui posait la question, je me rappelle, il me disait, est-ce que vous attendez Mashiach quand vous attendez le bus? Quand vous attendez un avion? Non mais sérieux.
Non, mais
t'es là, t'attends un bus.
Non mais dans le bus,
t'attends une livraison. T'as dit, il arrive à 10h. Il n'est pas là, à 10h. Tu l'attends, t'appelles. C'est quoi ça? Il est où? T'attends? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'est pas là? Mashiach, il n'est pas là. Ça nous change quelque chose? Ça nous fait une belle jambe, on n'a rien à faire.
Ouais, bon, Sauf qu'il non. A, ça fait des milliers
je
des
comprends,
milliers d'années.
Je comprends, je comprends.
Ça va comme ça.
Alors, ce qu'il dit ici.
Qu'on appelle aussi.
Je comprends ce que vous voulez dire. Mais il dit que, ce qu'il veut nous expliquer, c'est que, voilà, notre travail aujourd'hui, c'est de préparer les consciences, de nous préparer, collectivement, à comprendre que le monde dans lequel on vit n'est pas normal. Il faut arriver à cette conclusion. Il faut arrêter de croire que le monde dans lequel on vit est normal. Parce que le monde galoutique dans lequel on vit, c'est pas un monde normal. C'est pas un monde normal.
Oui, mais enfin, on n'est pas seul dans ce monde-là. Pour
alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Maintenant, moi, je vais vous donner un petit peu mon approche. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? On va pas justifier ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il fait en sorte qu'on comprenne qu'on vit dans un monde de fous. Parce que, vous comprenez, quand vous prenez par exemple les années 70-80, l'âge d'or des Juifs français, on était bien. Tu étais allé voir un Juif français dans au début des années 80. Tu sais, on est en exil. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes l'exil, toi? On est plein de pognon. Qu'est-ce que tu racontes en exil?
Oui.
Qu'est-ce que tu racontes?
Comme un Juif en France.
Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes tes histoires maintenant d'exil? Où l'exil? On a ce qu'on veut. On a ce qu'on veut. Les goïms, ils sont à nos pieds. On a ce qu'on veut. Va lui expliquer. Et c'est là qu'on voit comment Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle que non, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous, on est en exil. Et on est en exil partout où on est. Parce que les gens, ils pensent en faire l'Aliya. Ils changent rien l'Aliya. Comme disait tout à l'heure. On sait très bien qu'en Israël, tous les 2-3 ans, il y a une guerre. Et vous reprenez l'histoire. Reprenez l'histoire des 20 dernières années, tous les 2-3 ans, il y a une guerre. Et encore, je suis gentil. Et ça va progressivement. Tu vois, au début, c'est un petit missile, on va riposter, après, c'est un deuxième, un troisième, après, c'est la guerre. Après, quand on a réussi à tenir 5 ans, c'est le bout du monde. C'est d'accord avec moi, non?
Ouais.
Je raconte pas cette histoire. 5 ans, c'est quand on a eu vraiment une politique ultra répressive. Parce qu'on est en exil. Et Kadosh Baruch Hu nous rappelle qu'on est en exil. Tout en nous envoyant des grands miracles. On sent que le monde est en train de changer. C'est exactement ce qu'est en train d'expliquer ici la Demora Zaken. Demora Zaken dit, tu dois être convaincu que tu as une parcelle du monde qui te correspond et que ton travail, c'est de te préparer à Mashiach. Ça veut dire de te préparer, déjà en comprenant le fait que le monde dans lequel tu vis n'est pas un monde normal. Si ce soir vous rentrez chez vous à la maison et que vous avez même une seconde, une pensée qui dit « on vit dans un monde de fous », on est déjà sur la bonne voie.
Alors moi je dis à l'Admoara Zaken justement, c'est parce que le monde n'est pas correct comme ça, il est soi-disant dérangé ou erroné, c'est maintenant que toi tu dois venir pour
exactement.
Le mettre en place.
Vous avez raison. Une fois dans un des derniers Fabringen, le rabbi l'a dit, on n'a aucune raison logique pour expliquer pourquoi Mashiach n'est pas là. C'est le mot qu'il a dit. Je ne serais pas permis de parler comme ça. Hein. Mais il a dit, Dieu n'a aucune raison pour aller parler de Mashiach. Et lorsqu'il viendra Mashiach, on posera des questions à Dieu. C'est des mots que quelqu'un de sadique qui peut parler comme ça.
Dieu, mon âne, il était en panne.
Ah, c'est vrai. C'est-à-dire, quand tu as un sadique de l'envergure, du rabbi qui te parle comme ça, vous savez quand il y a eu la guerre du Golfe, en 91, d'accord? Enfin, 90, 80. Lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe, il y avait des rabbinim en Israël. Je sais pas si on peut les appeler rabbinim. Bon, il y avait des gens en Israël qui ont parlé, qui ont dit oui, il faut se préparer à une deuxième Shoah. Dieu, il a attendu que les fautes des Juifs se soient accumulées. Et maintenant, il va déverser sa colère, etc. C'est-à-dire du style, voilà, on a fauté, on va prendre sur la tête.
Il y a eu ça,
le rabbi, bien sûr qu'il y a eu ça, en 80, bien sûr,
mais il y a eu
avant la Shoah. Et le rabbi, quand il a entendu ça, il est sorti de ses gonds, vraiment. Alors c'était un Shabbat, il est sorti de ses gonds, c'était un Shabbat, donc c'était pas enregistré, mais bon, c'était retranscrit tout de suite après Shabbat. Il est sorti de ses gonds, et contrairement à son habitude, il a dit, mais comment on peut parler comme ça? Comment on peut parler comme ça à une génération aujourd'hui qui est une génération de rescapés? Comment on peut venir et dire que Dieu il est là, et il attend que la goutte qui fait déborder des vases, après il fait tout sauter, comme si voilà, il dit pas du tout, il y aura des grands miracles. Et on a vu la guerre du Golfe, des miracles extraordinaires. 39 scuds qui sont tombés sur Israël.
Ouais.
Pas un mort.
Un mort.
Hein?
Une femme et qui a eu une crise.
C'est même pas du scud. D'accord? Alors qu'il y a un scud qui est tombé au Koweït. Sur une base militaire américaine, d'accord, 240 morts. C'est pas possible. Et pourtant, c'est des militaires, ils sont équipés, c'est pas des civils.
Oui, c'est vrai.
Et là, le nombre de miracles qu'il y a eu, et je vais vous dire, j'ai encore beaucoup de choses à dire, le nombre de miracles qu'il y a eu, moi j'ai des amis et de la famille qui étaient là-bas en Israël, ils me disent, mais tu t'imagines pas les miracles qu'il y avait. C'est-à-dire, des fois, par exemple, pile tu sors d'une pièce, pac, le missile tombe dans le route. Et puis le missile il est tombé parce que ça le sait, c'est tout sauf un imbécile, d'accord? Marchez-moi. 91, c'est 90 à 91. Et Saddam Hussein c'est loin d'être un imbécile. Et Saddam Hussein, ils essayaient de viser. Alors au début ils avaient du mal à viser, après ils ont prévisé.
Provoqué surtout pour qu'Israël se rende.
Non mais c'est pas seulement ça, c'est qu'ils ont visé à un moment, ils ont visé une usine de gaz à Tel Aviv. Et le missile est tombé sur l'usine de gaz. Pile ce jour-là. Ça faisait des années que l'usine n'a jamais été en panne. Ce matin-là, l'usine elle tombe en panne. Vous imaginez ce que c'est une usine qui tourne, une usine de gaz, en pleine ville, enfin juste à côté, quoi, zone industrielle, quoi. Mais c'est un dégât, mais c'est un dégât monstrueux. Des miracles comme ça, il y en avait partout. Et moi, j'ai des amis qui habitaient à Gouche Katif. Vous savez, Gouche Katif, c'est...
Ils n'y habitent plus.
Vous savez qu'à Gouche Katif, il y avait des dizaines d'obus qui tombaient tous les jours.
Des dizaines.
C'est pas un, des dizaines. D'accord. Et à chaque fois, des miracles extraordinaires. J'ai aussi des amis qui habitent à Sderot. Bon, la Sderot, c'est un peu calmé, de temps en temps, ça repart. Des miracles extraordinaires, on n'a même pas idée. Ça veut dire, on vit une époque intéressante. D'un côté, on voit des miracles extraordinaires comme on n'a jamais vu. On vit une époque messianique, on sent qu'on, c'est pas normal. Et d'un autre côté, je sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le bras de fer entre Trump et Obama, il est autour d'Israël. Tu dis, mais mince, ils ont que ça à régler. Tu comprends pas. Tu dis, le bras de fer entre Trump et Obama, parce qu'on sait très bien que dans les périodes de changement de pouvoir, il y a des bras de fer. Sur quoi il est le bras de fer? Non, ce que je vous dis, j'invente pas. Il suffit de suivre le compte Twitter de Monsieur Trump.
Mais c'est la folie.
C'est de la folie. Sur quoi ils font le bras de fer? Sur Israël.
Il a envoyé 35.
Tu dis, mais ils ont que ça à faire.
35 diplomates.
Le slogan de Trump, c'était quoi? Make America great again. Remettre l'Amérique grande. Tu dis, bon, c'est sur ça qu'ils vont se battre. Je veux dire, Israël, c'est un petit pays. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de problème avec Israël? Regardez sur quoi ils ont le droit de faire. C'est l'actualité. Regardez l'actualité de cette semaine, la semaine dernière. Quand on voit ça, on comprend qu'il y a des choses qui se passent. On comprend que Mamash, Kadosh Baruch Hu veut nous montrer qu'Israël est au centre du monde. C'est incompréhensible. Ouais. Incompréhensible. Je veux dire, je ne vous invente pas ce que je vous dis. Suivez l'actualité. Regardez l'actualité. Leur bras de fer, il est autour d'Israël. Autour de l'ONU et le discours de Kerry et Marchemo, d'accord, etc. Tout est autour d'Israël. Il n'y a rien, c'est-à-dire, on a oublié les problèmes américains. On ne parle plus. Vous avez entendu Trump parler des problèmes américains? Il ne parle plus des problèmes américains. Tu m'as dit, t'es où? Il parle des problèmes américains. J'ai suivi l'actualité parce que ça m'a intrigué, je suis parti chercher sur internet. Il parle pas des problèmes américains, il parle que d'Israël maintenant. C'est rien, c'est les babioles. Ce qui fait les grandes lignes, c'est Israël. C'est fou quand tu vois ça, tu me dis, c'est pas possible.
Ça se passe pas une journée où on parle pas d'Israël.
Exactement. C'est fou. Quand tu vois ça, tu dis, c'est fou, c'est extraordinaire. Et c'est là qu'on comprend ce que le rabbi nous dit, qu'en vérité, on s'approche de Mashiach. Et Dieu nous montre qu'on s'approche de Mashiach. Alors je disais, d'un côté, on vit une époque messianique, parce que d'un côté, on voit comment il y a des grands miracles, des miracles extraordinaires, comment on est le centre du monde, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et d'un autre côté, on sent qu'on est repoussé de partout. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous montrer qu'on est en exil.
La question qu'il faut se poser, est-ce que nous on est le centre du monde, mais est-ce que on est le centre du monde parce que justement on est un petit pays et tout autour de nous il y a des pays qui sont très puissants.
Comment vous
et
expliquez...
c'est cela que ça intéresse les nations.
Ils ont tellement de choses sur lesquelles
ces pays qui sont puissants et c'est cela que ça.
Monsieur Benita, vous avez une raison pour m'expliquer pourquoi Monsieur Obama il est en train de perdre sa face complètement. Il fait des trucs de malade, c'est un malade, c'est un maboule. Ça veut dire, il a une carrière qui est, je veux dire, il a une, comment on appelle ça, il a une, un mandat, deux mandats qui étaient relativement stables. Il est en train de péter un plomb. Excusez-moi de vous le dire.
Mais il pète un plomb.
Il est descendu. Non, mais en général, il s'arrangeait pour garder une face et derrière, il faisait ce qu'il voulait. D'accord? Mais là, ces derniers jours, ces dernières semaines, il est en train de péter un plomb. Complètement. Ça veut dire qu'il n'arrive même plus à se retenir. C'est plus fort que lui.
Enfin, de son point de vue à lui et de ce
oui.
et du point de vue de la politique et de la géopolitique, il pète pas un plomb. C'est cohérent ce qu'il fait par rapport.
Ça correspond à rien qu'il a fait pendant.
Il a aucun intérêt de nous faire des sourires à nous.
Oui.
Ben voilà. Donc c'est normal.
Il a fait ça pour embêter l'autre.
Ben voilà.
Très clairement.
Pour faire plaisir aux Arabes.
Pour faire. Non, il s'en fiche des Arabes. Il s'en fiche des Arabes.
Et comme l'autre il se laisse embêter. Ah tu m'embêtes, tu vas voir.
Mais c'est des gamins. T'as l'impression qu'on a une cour de récréation. C'est des gamins. Tu vois ça, ils ont perdu leur face. Tu vois ça, il a perdu sa face. Il dit, mais c'est ça, le président des États-Unis?
Je veux que mon ambassade aille.
C'est là qu'on voit C'est là qu'on voit que ça, c'est en vérité, c'est un midrash. On n'a pas fait beaucoup sur le texte aujourd'hui, mais je voulais beaucoup m'arrêter sur ça aujourd'hui. Ce soir, c'est une date importante. Il y a un midrash. Il y a un midrash qui dit comme ça.
On n'a pas fait encore sur le texte.
D'un coup de Timoni. Non, mais je vous ai fait à l'oral. Il y a un midrash d'un coup de Timoni qui dit comme ça. Qui dit qu'avant, avant Mashiach, avant la venue de Mashiach, toutes les nations vont se battre entre elles. Elles vont se battre. Et Israël, on sera au milieu. Et Israël, on lève les yeux vers Hachem. Et on lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, à ce moment-là, Dieu, il sort. Il dit, vous inquiétez pas, mes enfants, je suis là pour vous aider. Voilà.
On est dans cette phase, alors.
Bien sûr. Et si on n'est pas dans cette phase, on est dans quoi, alors? On est en plein dedans.
Et là, tu vas au cours.
Ça veut dire, celui qui comprend pas que l'histoire du monde s'accélère, il est à côté de la plaque. C'est un, faut être aveugle pour pas voir ça.
Elle s'accélère sur le plan de la technologie.
Non, je parle pas de ça. Je parle pas de ça.
Bon, mais spirituellement parlant, bon.
Non. Je sais pas, spirituellement parlant, je dis pas. Mais ce que je dis, c'est qu'on s'approche vers un autre monde. Ça, c'est clair. Il y a des hauts et des bas, attention. Il y a des hauts et des bas.
Mais toutes les périodes, ça a été comme ça. Hein. La période des Grecs, c'était...
Moi, je vais vous donner un exemple, monsieur Benita. L'URSS s'est effondré en quelle année?
Pardon?
L'URSS. Le communisme s'est effondré en quelle année?
C'était quoi?
S'est effondré en quelle année?
Ben, je vous ai dit...
89. Très bien. Est-ce qu'il y a eu des bains de sang en 89? Comment vous expliquez ça? Si vous reprenez l'histoire du monde, vous voyez que... Non, mais attendez, écoutez-moi ce que je veux dire, parce que j'ai étudié mon sujet. Vous prenez l'histoire du monde, toutes les révolutions, sans exception, toutes les révolutions du monde étaient accompagnées d'un bain de sang... De milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers, voire de millions de personnes.
Parce que.
Vous êtes d'accord avec moi?
Oui, parce que.
Bon. Le politique. C'est la réalité. Toutes les révolutions du monde.
Le politburo.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, on a, là, je veux dire, le communisme, ça prenait le monde entier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça reste comme si rien n'était communiste à la poste.
Tout simplement parce que le politburo à l'époque, c'était Brejnev, Léonid.
Oui, mais vous arrêtez sur un détail.
Mais non, c'est pas.
Mais le communisme, c'était pas que la Russie. Le communisme, c'était mondial.
Non, mais il faut dérouler l'histoire.
C'est un détail, ça. C'est un détail, excusez-moi. C'est un détail de l'histoire, ça.
Mais ça a commencé.
C'était mondial. C'était mondial. Européen, chinois, coréen, c'était partout. Partout. Comment vous expliquez que ça s'effondre comme ça?
Non, mais vous parlez du régime soviétique. Non, je vous dis.
Je parle pas que du régime soviétique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit aujourd'hui que.
Bon, finalement, Mendy, en résumé, on n'a rien à faire. Quoi.
Non, j'ai pas dit ça. Le rabbi nous dit.
Qu'est-ce qu'on peut faire nous aussi déjà? Ah,
ça, c'est l'approche du rabbi. L'approche du rabbi, c'est comme ça. Il dit, il y a des grands changements. Il y a des grands changements qui se passent dans le monde. Nous, on est spectateurs. Mais la seule chose qu'on a à faire.
C'est juste à regarder.
C'est. Non, c'est pas seulement regarder le spectacle. C'est se préparer à Mashiach.
Attention,
mesdames. Se préparer, comment, alors, consiste quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Se préparer, ça consiste en deux choses. D'abord, comprendre qu'on vit dans un monde qui n'est pas normal.
Ça, on l'avait compris.
Non, ça, je pense pas qu'on l'a compris.
Ah, je peux dire ça.
Non. Je pense pas que ça l'a compris.
Enfin, depuis le temps qu'on subit, hein.
Non, parce qu'on a accepté. Donc, dès qu'on a accepté.
Mais on a accepté, est-ce qu'on avait le choix? On n'avait pas le choix.
En tout cas, maintenant, on vit bien dans la prison.
Bah, parce que, voilà.
Il y a un nom, comment il s'appelle, le syndrome? Il y a un syndrome, c'est un syndrome très connu. Non, c'est pas dans Stockholm, ça ressemble au syndrome de Stockholm, c'est pas Stockholm. Il y a un syndrome quand quelqu'un, il est en prison, et que pour lui, il pense que c'est la vraie vie. D'accord?
Oui,
ça ressemble au Stockholm, mais c'est pas la même chose.
Il veut plus sortir, il a une fois une émission, un mec, je crois, 25 ans en prison, et il veut plus sortir le mec. Il voulait pas sortir, sa vie, s'est habitué à la prison, puis,
on m'a raconté que. Exactement. On m'a raconté qu'il y a eu comme ça, ça fait quelques années, qui est resté 30 ans en prison, qui est sorti. Et il a fini par se suicider. Ils en ont fait un film, il paraît, dessus. Ils ont fait un film. Parce que.
Oui, il peut pas bien.
Il a pas de repère.
Il
sait pas ce que c'est.
Il a tous repères en prison.
Des fois, il revient en prison.
Il a toujours vécu en prison toute sa vie.
Tout gamin. Bon, on va lire un peu dans les mots. D'accord?
Le deuxième point.
C'est... Alors, quand on dit se préparer à Mashiach, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire comprendre qu'il y a un problème. La solution commence par le fait de comprendre qu'il y a un problème. Tant qu'on n'a pas compris qu'il y a un problème, il n'y aura pas de solution. Je ne sais pas si on l'a compris. Non. Comprendre, réaliser, admettre, ressentir qu'il y a un problème.
Ce soir, tu dis à ta femme, il y a un problème.
Hein? Comprendre qu'il y a un problème.
On parle en Israël.
Ça change rien.
Tu dis un problème.
Ensuite, deuxième chose.
C'est quoi ton problème?
Deuxième chose, c'est se préparer à Mashiach.
C'est quoi
se préparer à Mashiach? Se préparer à Mashiach, ça veut dire essayer de s'imaginer comment je vivrais aujourd'hui si ma chère était là?
Bon, c'est pas ce qui va changer. Hein.
Mais bien sûr qu'on sait ce qui va changer.
Mais comment?
C'est parfaitement ce qui va changer.
Comment je peux imaginer quelque chose qui n'est pas imaginable? Oui, voilà.
Imaginez un monde, regardez, imaginez un monde dans lequel il n'y a pas de conflit.
Mais comment,
attendez, monsieur Benita, écoutez ma question. Imaginez un monde dans lequel il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de conflit, d'accord? Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de rivalité. On a du mal à s'imaginer. Pourquoi?
Attendez.
Parce que quand vous regardez,
il existe.
Mais pas du tout, il n'existe pas.
Mais si le kibbutz, il existe au kibbutz.
Mais pas du tout, le kibbutz.
Il se bagarre pas, il se truc pas. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil.
Pourquoi le kibbutz il s'est effondré? Parce que c'est faux, ça marchait pas.
Parce que il voulait.
Parce que les pigeons ils croyaient qu'on donne l'argent pour la caisse commune, et les pigeons voyageurs ils prenaient l'argent.
Non, il y a encore des kibbutz.
Ça tient pas. Non, tu peux t'enrichir. Ça peut pas tenir. Ça n'a pas tenu.
Non, parce que la société économique, elle l'a emporté.
Mais pas du tout, parce que ça peut pas tenir. Parce que, pourquoi les juifs ont beaucoup cru au communisme? Parce que les juifs voyaient dans le communisme un signe messianique. Et c'est vrai que dans le communisme, il y a des aspects messianiques. Après, c'est tordu, attention. Dans le communisme,
Non. Ils sont athées, les communistes.
Le communisme, l'idée à la base du communisme, le concept est sain. Mais le problème, c'est que ceux qui ont mis cette idée, c'était des manipulateurs, qui ont fait ça pour manipuler le peuple. Mais le concept de base, le concept de fait qu'on vit dans un monde dans lequel tout est égal, etc., ça c'est un concept qui pourrait correspondre à une idée messianique. Mais en vérité, ceux qui ont créé ce concept, ils n'ont jamais cru eux-mêmes. Eux-mêmes, ils n'ont jamais cru à ce concept. Eux-mêmes, ils voulaient manipuler. Ils ont manipulé comme ça des générations. Et on le sait, ça, que dans tout le système du communisme, ceux qui étaient à la tête ont manipulé des générations entières du peuple. Voilà. Mais
leur peuple,
ça, j'ai lu d'un historien. C'est un historien que j'ai lu d'un historien qui explique, c'est la raison pour laquelle les juifs ont beaucoup cru au communisme. Les plus grands chez les communistes, c'était les juifs. Vous savez ça. Parce que dans le communisme, il y avait, au début surtout, il y avait une sorte d'annonce d'un changement. Les juifs aiment le changement, la révolution, le changement. Ils aiment ça. Mais bon, après, on a compris qu'on. Ok. Alors, on va continuer maintenant dans les mots. Allez, Rabotin, on va aller un peu dans les mots.
Page 149.
Qui clalout Israël?
On dirait Christian, le mec du midi.
Non, 150.
Page 149. Je ne saurais pas vous dire quel. Là, c'est la page 149. Qui clalout Israël? C'est l'étude du 18 Adar. Vous avez dans le mot? Page 149. Allez, Rabotin, on y va. Qui clalout Israël? Shehem, Shishim, Ribbono Shel Olam, Pratiot, parce que tout Israël, qui sont 600 000 âmes, aime Klalut Achayut, Shel Klalut Haolam, représente la vitalité globale du monde entier. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé 600 000 parcelles qui correspondent aux 600 000 âmes. Voilà, il n'y a pas où aller. Ça veut dire que, et je parle que des juifs ici. Je parle que des juifs. J'ai pas fini, laissez-moi parler. Alors, Kibush Vilam Nivra, parce que c'est pour eux qu'il a été créé. Alors là, c'est très clair. Le monde est écrit pour les juifs. Qu'on soit clair. Ça veut dire que tout le monde, la France, l'Italie, l'Algérie, le Maroc, d'accord, le Maroc, tout a été créé pour Israël. Tout a été créé pour Israël. Donc, s'il n'était pas créé pour Israël, il n'a pas de raison d'être. Même la lune, elle est créée pour Israël. Le soleil, elle est créé pour Israël. Tout est créé pour Israël. Israël, c'est le peuple d'Israël. Et donc, chaque parcelle du monde correspond aux juifs. J'ai déjà posé la question, comment ça se fait par exemple que les juifs, ce soir le Maroc est à l'honneur, comment ça se fait que les juifs ont vécu au Maroc pendant combien de temps? 200 ans?
Non, 2000 ans.
Hein? Non, pas 2000 ans.
Bien sûr.
L'âge d'or du juif au Maroc.
Avant les Berbères,
bon, combien de temps?
2000 ans.
Non.
Je parle, non.
À partir de 1490.
D'accord. Isabelle la catholique.
Ils étaient avant les Berbères.
Non, pas la plupart.
D'accord. Maintenant, on va dire que les années les plus peuplées étaient les 400 dernières années. Vous êtes avec moi?
Ouais,
d'accord.
4-5.
Maintenant, on va dire 4-5. D'accord.
Les Bédouins. Hein,
4-5, 4-5 derniers siècles. Très bien. Maintenant, aujourd'hui.
Mais non, il n'y avait pas de
Bédouins. Aujourd'hui, Rabotaille, combien de juifs restent au Maroc?
Il reste 3500.
D'accord. Comment ça se fait? Combien de juifs vivaient au Maroc? Ça fait 50 ans.
300 000 à 350
ans. 400 000.
Comment ça se fait?
Même 400 000.
Pourquoi Dieu a fait cette migration? Alors, moi, je vais vous dire ce que dit Baal Shem Tov. Le Maroc, il a été créé pour les juifs ou pas?
Oui.
Alors, je vais vous dire ce que dit Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il dit comme ça. Il dit, les juifs sont présents dans un endroit tant qu'ils n'ont pas fini leur travail dans cet endroit. Une fois qu'ils ont terminé leur travail dans cet endroit, c'est-à-dire qu'il y a un travail. Il y a un travail de véhiculer la Kedusha dans un endroit. Mmh. Une fois qu'ils ont terminé ce travail, Dieu fait en sorte, peu importe par quelle manière, Dieu fait en sorte que le juif, il bouge. Je parlais tout à l'heure avec Jackie. Regardez, même en France, pareil, même à Paris, par exemple. Regardez Paris. Regardez la migration des juifs à Paris. Regardez des quartiers comme Montmartre. Qu'est-ce qui reste de Montmartre aujourd'hui? Zéro. Qu'est-ce qui reste de la rue des Rosiers? Il reste un petit peu. Pas grand chose. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? On voit une migration. D'accord?
Belleville.
J'étais à Sarcelles, on était à Sarcelles de manière. Belleville.
Belleville, c'est terrible.
D'accord? Belleville. Qu'est-ce qui reste de Belleville? Zéro. D'accord? Sarcelles, qu'est-ce qui reste de Sarcelles?
Sarcelles, ça, il reste
vraiment. Sarcelles, c'est fini. Je comprends pas. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y ait une telle migration? Une migration comme ça. Je veux dire, moi, depuis que je suis enfant, je me rappelle que le 13e, ça a toujours été le quartier chinois. Et les Chinois, ils sont toujours là, ils n'ont pas bougé. Et je me rappelle aussi, quand j'étais petit, que Belleville, c'était toujours le quartier chinois. Attendez, c'est toujours le quartier chinois. Ça n'a pas bougé, ils sont toujours là-bas.
Ils sont venus il y a combien, il y a 15 ans, 20 ans.
Mais c'est rien, mais voilà.
Mais nous, ça fait...
Mais attendez, monsieur Benita, je vous parle de Paris maintenant. Je vous parle de Paris. Dans les années 80, Montmartre, c'était blindé de juifs. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Pourquoi? Pourquoi les Chinois, ils sont encore en 13e et les juifs sont plus à Montmartre? Eh bien, ça, c'est ce que le Baal Shem Tov répond. Non, monsieur Benita, cherchez pas de raison logique, il n'y a pas de raison logique. C'est pas logique. Il n'y a pas de raison logique. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov dit comme ça. Le Baal Shem Tov dit qu'en vérité, chaque juif, il a un travail sur sa terre. Qui correspond à une personne spécifique dans un lieu spécifique. Et dans un moment spécifique. C'est le triangle. Personne spécifique, moment spécifique, endroit spécifique. D'accord? C'est le triangle. Une fois que le travail est terminé, Dieu s'arrange pour que la personne déménage. Alors, il envoie les Chinois, il envoie qui tu veux pour qu'il dégage, mais il faut qu'il parte.
Par exemple.
Et ça, on l'a vu clairement. Alors, justement, je termine. On parlait du Maroc. On parlait de la Tunisie, on parlait de d'où vous voulez. D'accord? On voit clairement qu'il y a une migration. Il faut être ignorant pour ne pas le voir, ça. On voit clairement qu'il y a une migration, qu'il y a des gens qui sont là. Alors, on peut trouver des raisons. On dire, il y a eu une guerre, il y a eu la guerre d'indépendance, il y a eu ci, il y a eu ça. On peut toujours trouver des raisons. Mais ça n'explique pas tout. Comment ça se fait que tu passes de 300 000 à 1500?
Mais ce sont ces
comment
raisons
ça se fait que,
qui ont fait les migrations.
Comment ça se fait tout d'un coup maintenant, hop, 17e. Hop, Neuilly, pac, Saint-Mandé, pac, 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 et comme ça bouge comme ça, pac, 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 pac. Et bien, c'est ce que dit Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il dit parce que chacun de nous a une parcelle dans laquelle il se trouve. Je vais aller même plus loin que ça. Vous habitez dans un endroit. Vous restez 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Vous déménagez. Pourquoi vous déménagez par hasard? Pourquoi vous avez déménagé? Parce que vous avez terminé votre travail dans cet immeuble. Ou dans cette maison. D'accord? Donc vous passez dans un autre endroit.
Même s'il y a des juifs dans un endroit.
Tout! Tout! Tout. Ça, c'est extraordinaire. Chacun a sa mission. Et c'est pour ça, lorsque le rabbi nous dit, maintenant, regardez. Non, mais regardez aujourd'hui. Finalement. Où se trouve?
Je peux pas démontrer le contraire.
Alors.
Bah oui.
Non, mais là, je sais pas si vous avez remarqué, ces 10 dernières années, il y a un changement. Jusqu'à il y a 10 ans, la majorité du peuple juif n'était pas en Israël. Elle était entre les États-Unis, la France, l'Australie, l'Europe, etc. Elle n'était pas en Israël. Ça fait, je crois, 3 ans, si mes souvenirs sont bons, on a basculé. Et maintenant, en majorité, maintenant, la majorité du peuple juif se trouve.
650.
Donc la majorité du peuple juif se trouve maintenant en Israël.
Oui, il y a plus de 50% des juifs.
Plus de 50%, on l'a dépassé de loin, 50%.
8 millions. Parce qu'il y a des démographies.
On est déjà à 55, on l'a déjà dépassé.
Dans les 8 millions et les Arabes.
Oui, d'accord, mais bon, on a dépassé. Et tu dis, mais ces juifs, ils viennent d'où? Ils viennent d'autres pays. Et qui les a remplacés dans ces autres pays? Qui les a remplacés? Personne. Comment c'est que Dieu il a fait qu'ils sont partis? Parce qu'ils ont terminé leur travail. Il y avait un travail à faire, ils l'ont terminé. Donc quand ils ont terminé leur travail, Dieu il s'arrange pour qu'ils partent. C'est tout. Et c'est là quand on voit ça, qu'on voit encore un autre signe d'un changement. Vous prenez l'histoire du monde. Il y a un siècle, il y a deux siècles, il y a 10 siècles. D'accord? Il n'y a jamais eu la majorité des peuples juifs en Israël. Et même pas 10% des peuples juifs en Israël. Dans l'histoire, depuis qu'on est parti en exil, il n'y a jamais eu, même pas plus de 5%, 10% à tout casser du peuple juif qui est en Israël. Le reste, c'était où? C'était dehors.
Parce qu'il n'y avait pas d'Israël aussi.
Mais non, mais c'est... Encore une fois.
Ça, c'est un moyen.
C'est un moyen accélérateur. Mais ça veut dire, ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir qu'il y a un planificateur derrière tout ça. Un qui planifie tout ça. Qui fait ses grands mouvements, ses grandes migrations. Qui c'est qui fait ces grandes migrations? C'est un cadeau pour
vous. Tu disais qu'il y a aussi le facteur temps. C'est-à-dire pas.
Oui.
Alors, ils ont quitté l'Allemagne. Là, l'Allemagne est en train de nouveau beaucoup de Juifs qui s'installent ou sont en Allemagne.
Alors, c'est qu'il y a un travail qui n'est pas fini.
Donc là, on part sur on a précipité leur départ, ils reviennent, pour certains.
Mais, même en Israël, à l'époque du premier temple, on l'a cassé, tout le monde est parti, et puis maintenant, voilà,
on nous a viré.
Ils sont partis, ou virés, c'est qu'on a fini notre travail. Pourquoi on revient maintenant?
Non, parce que on est parti pour aller récupérer, parce qu'il y avait un travail qu'on n'a pas fini dans le monde. Il faut aller récupérer les essentiels de Kedusha qui sont un peu partout dans le monde. Qui sont éparpillés partout. On doit les récupérer. Comme une chasse au trésor.
C'est une mission.
C'est une transition.
Et ça, on le voit.
Ça, c'est fini, tu l'as dit tout à l'heure.
Ah, voilà. Le travail de raffiner, il est terminé.
Oui, alors.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut préparer un Mashiach. Et le rabbi, il a dit la chose suivante. Il dit, il a analysé une haftara. Et l'haftara d'il y a deux semaines. Pas il y a deux semaines. De l'haftara de Vayeshev. D'accord? Vayeshev, Mikaz, oui, l'haftara de Vayeshev. Et l'Aftara de Vayeshev, je ne sais pas si vous faites attention à l'Aftara, dans l'Aftara, il y a le mot Tsarfat. Vayeshev, on l'a lu, Vayeshev. Tsarfat, c'est quoi Tsarfat? Là-bas, c'est un texte, je crois que c'est dans Isaïe, qui nous dit que Mashiach, Va'alou Moshim Be'artzion, d'accord, donc le sauveteur va monter, et il dit là-bas, il va passer d'abord par la France. Tsarfat, il dit clairement, à Tsarfat. Tsarfat. Ça veut dire que la dernière étape avant Mashiach, Tsarfat.
Alors,
d'accord.
On est bien placé.
Ah ben, je vous dis. Et là, qu'est-ce que dit le rabbi?
Il est reparti.
Le rabbi dit, ça veut dire que les juifs français auront un travail avant-gardiste. C'est-à-dire, ils seront à l'avant, d'accord, à l'avant de la scène, pour amener Mashiach. Il a dit clairement. Il a dit, les juifs français, ils ont cette force. C'est écrit dans l'Haftara, à Tsarfat. Et c'est d'ailleurs dans ce Fabringen que le rabbi avait parlé de la révolution française. Vous savez qu'à l'époque de Napoléon, on se battait contre la Révolution française. Oui. C'est-à-dire que Mourazaken, il était contre, il s'est enfui de Napoléon. Et on disait aux gens de ne pas suivre Napoléon, de ne pas rentrer dans la Révolution française. Oui. Et de ne pas toucher à ça, de ne pas toucher à la France. C'est pour ça qu'il y avait très peu de juifs qui habitaient en France à cette époque-là. Et ceux qui étaient en France étaient assimilés. Et dans les dernières années, qu'est-ce qu'on a vu? Le rabbi, il a pris la Marseillaise. Qu'est-ce qu'il a fait avec la Marseillaise? Il a transformé la Marseillaise. Il a fait un igoun qu'on chante à la synagogue. Et beaucoup de gens sont choqués par ça. Mais qu'est-ce qu'on mélange maintenant, la Marseillaise, la synagogue? On mélange pas la...
Il a bien aimé la France,
ah, bien sûr. On mélange pas...
Les torchons.
On mélange pas l'église et...
Il n'y a pas de rapport.
Et c'est là que le rabbi expliquait la chose suivante, Il a dit que, en vérité, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de faire la révolution française, mais la bonne révolution française. On a vu que dans l'histoire du monde, si vous prenez l'histoire du monde dans les deux derniers siècles, aujourd'hui on fait un cours d'histoire ce soir, hein, regardez l'histoire du monde. Qu'est-ce qu'on a eu dans les années 1800? On a eu la Révolution française. Vous êtes d'accord avec moi que la Révolution française a changé le cours du monde? C'est pas qu'en France que s'est passée la Révolution.
Ah ouais.
La démocratie et la Révolution française qu'il y a eu en France par Napoléon, elle a changé le cours du monde.
Oui.
Très bien. Donc là déjà on voit comment la France est avant-gardiste. Ensuite, prenez mai 68. Depuis 67 déjà, 65, 66, 67, jusqu'à 68, ça a explosé. Qui était à l'avant de la scène dans le monde? Qui a changé le monde? C'est la France. C'est encore une fois venu de la France. C'est la France qui a fait un mouvement. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Parce que le rabbi dit, parce que la France a un rôle extraordinaire, très très important dans la venue de Mashiach. Et c'est pour ça que quand nous on voit ça, on comprend. Alors je sais pas pourquoi Dieu a décidé comme ça. C'est Dieu qui décide, c'est les calculs de Dieu.
Mais normalement, ça aurait dû être Jérusalem qui doit l'avant-garde.
Non, Jérusalem, c'est là où ça se termine. Mais la France, c'est l'Aftara. Prenez l'Aftara, moi j'inventerai. Hein. Prenez l'Aftara. At Tsarfat. At Tsarfat.
J'ai compris.
Comment commence? C'est très simple.
Commence par un pays goy. Alors.
C'est que le rabbi voit la chose comme ça. Il voit que dans la France, chaque pays a un message. D'accord? Par exemple, le message de l'Amérique, c'est la largesse. Ça, c'est le message. Ça veut dire, si on doit définir en un mot l'Amérique, c'est quoi l'Amérique?
La grandeur.
D'accord? La folie des grandeurs, ce que tu veux. Ça, c'est... Chaque pays a un mot qui le caractérise. Maintenant, si on devait définir en un mot la France, c'est la Révolution. Le français... Alors après, ça peut s'exprimer plusieurs choses. Ça peut s'exprimer dans le fait qu'il est tout en train de faire des grèves, tout en train de râler. Mais ça, c'est l'aspect Révolution qui s'exprime mal. Le français, ça, c'est ce que dit le texte. Le français... La France elle-même. La France, c'est un endroit de révolution. C'est un endroit qui est source de révolution. Alors l'approche du rabbi, c'est que de la même façon que c'est une révolution qui malheureusement était mauvaise, il faut dire les choses clairement, cette force de la révolution, si on l'utilise et on la transforme dans le bien, on peut avoir une révolution de bien dans la Torah. Vous savez que le mouvement Chabad, l'endroit... Bien sûr, une énergie de révolution. Vous savez qu'un des endroits dans lesquels le mouvement Chabad est le plus actif et un endroit dans lequel le mouvement Chabad a ramené le plus de gens à la Torah, c'est la France. Regardez la France. Comment, de quoi avait l'air le judaïsme français? Ça fait 40 ans.
Rien du tout.
Zéro. Il n'y avait rien. Prenons, de quoi avait l'air le judaïsme français en mai 68, de quoi avait l'air? Ça avait l'air de zéro, de rien du tout. Et lorsque le rabbi a envoyé, le Rav Azimov, il l'a envoyé en France, il lui a dit, ton travail, c'est de transformer la France. Et je vous ai dit, Shabbat, quelle date il est arrivé, quelle date il a atterri ici à Paris? 1er mai 1968. Son avion a atterri.
En pleine révolution.
Pleine révolution. Il s'en rappelle comme aujourd'hui. Il nous l'a raconté, j'étais là. C'est pas des 10 000 ans, c'est 2 secondes. Il nous l'a raconté. Pourquoi? Parce qu'il a dit, le rabbi, il a dit, ton travail, c'est de faire la révolution française dans le bien. Dans le bien, dans la Torah. Et ça, il faut savoir que les Français, on a été avant-gardistes sur ça. Dans le sens que, par exemple, à l'époque, tu avais ceux qui étudiaient la Torah et ceux qui étaient dans les universités. C'était inconcevable d'avoir un juif religieux dans une université, dans le monde entier. Et c'est ici, en France, le premier endroit dans le monde dans lequel tu as des juifs qui ont fait teshuvah et qui sont restés à l'université. Ils sont restés dans la Torah. Ils ont montré qu'on peut faire les deux en même temps. C'était unique dans le monde.
Rabbi n'opposait pas forcément...
L'approche du rabbi, c'était qu'on n'envoie pas à l'université, mais celui qui est déjà à l'université, il doit y rester en diffusant la Torah. Et c'était unique. Les gens du monde entier sont venus prendre des exemples. Du monde entier. C'est même les Américains, etc. Personne n'avait cette chutzpah, la française. Parce qu'encore une fois, les Français, on est avant-gardistes. Et c'est la raison aussi pour laquelle le rabbi, il a passé plusieurs années de sa vie en France.
Le développement de la religion en France, c'est dû aussi beaucoup grâce à l'apport de toutes ces communautés d'Afrique du Nord, notamment.
Mais d'après vous, monsieur Benita, je vais aller dans votre direction. D'après vous, pourquoi Dieu a fait que toutes ces communautés sont venues en France? Vous savez, monsieur Benita, vous êtes venu de quelle ville?
Casablanca.
Vous savez, moi je connais beaucoup de juifs de Casablanca qui, directement de Casablanca, ils sont partis en Israël, ils ont fait l'Aliya.
Oui, direct.
D'accord.
Oui.
Pourquoi la famille Benita, elle a atterri en France, elle n'a pas atterri à Tel Aviv?
Tout simplement parce que l'école, à ce moment-là, en Israël, elle était dispensée uniquement le matin. Et ma mère, elle disait, je ne veux pas que mes enfants, ils traînent sous le soleil dans l'après-midi.
Bon, vous êtes d'accord avec moi que c'est un argument bidon?
Elle a choisi la France.
Vous êtes d'accord avec moi que c'est un argument bidon?
C'est pas la route.
L'école, c'est pas bidon.
Non, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est un argument qui a été inspiré par Dieu à votre mère?
Et vous, monsieur Cohen?
C'est une excuse, voilà.
Et vous, monsieur Cohen?
Pourquoi vous êtes venu en France?
Pourquoi t'as pas été à Star? Pourquoi t'as pas été à Meknès?
On avait les valises au-dessus, elles étaient prêtes pour partir.
Mais ben, allez comprendre. Moi, mon père, par exemple, d'Algérie, vous savez, d'Algérie, ils sont partis en Israël.
Ah bon?
Oui. Une grande partie, la majorité des juifs d'Algérie, ils sont partis en Israël.
Non. Ah bon,
bien sûr. Mais attendez.
Ceux qui sont partis avant.
Ceux qui sont partis, voilà, ils sont partis en Israël. Ils sont partis en Israël. Il est parti en Israël, il est resté un an.
Ils étaient tous français alors.
Ben justement, mais oui, mais ils sont partis en Israël. Ils sont partis un an, ils n'ont pas tenu, c'était impossible. Les pieds noirs, c'était impossible de tenir en Israël. Ils étaient traités comme des... Bon, voilà, c'était très très dur. Ils sont revenus en France. D'accord? Ils ont atterri à Lyon, maintenant on est à Paris. Comment t'expliques tout ça, là? Algérie, Israël, Lyon, Paris, c'est quoi? Mazé, c'est quoi ça? Quoi cette histoire? C'est ça. En vérité, quand on est croyant et qu'on comprend tout ça, on comprend qu'on n'est pas là pour rien. On est là pour préparer le monde à ma chère. Préparer le monde.
Comment tu qualifies alors, en un mot, la Russie? Parce que tu as dit que la France, c'est la révolution. La Russie, c'est quoi alors?
Ah, je sais pas. Je suis pas...
C'est l'effondrement. Ah.
Non, mais la France, c'est la révolution.
L'URSS, 1917, moi j'aurais défini en un mot le contrôle.
Mais en plus, le
contrôle.
N'était pas... Puisque... À l'origine, quand Marx a fait son spécial, il n'a jamais parlé contre le volet. Dès lors qu'une entreprise avec laquelle je vais être. Il n'a jamais parlé de communisme, il a parlé de socialisme. Et de socialisme, il a même dit dans sa phrase que le socialisme était une utopie qu'on ne pourrait jamais atteindre. Et il n'a jamais critiqué ce qu'il refusait, c'était comment distribuer la richesse. Et là, avec la révolution russe, ils ont accaparé, ils ont voulu après transformer la notion de socialisme en communisme pour faire en sorte de partager en commun tous les biens.
Ouais.
Mais c'est une erreur. C'est pas ça du tout. Et le communisme qu'on a eu après, jusqu'à maintenant avec l'effondrement dans certains pays, on en a encore.
Et dit hors de question de bosser.
On n'est pas du tout.
Correspond pas du tout, c'est vrai.
Et la révolution, là, si tu veux utiliser un problème de révolution, oui, la Russie.
Pourquoi
la Russie, c'est pas révolution.
Non, la révolution dans le sens de vouloir changer les choses.
Non, c'est pas que ça, parce que les valeurs même, les
dans le critique
de la révolution, c'est la liberté.